Chapitre 11. Je suis heureux, trop heureux. C'était le refrain revenant sans cesse dans les lettres de Bruno à sa famille au cours de son voyage de noces en Asie mineure. Il y insistait surtout en s'adressant à sa mère, qu'il tenait très particulièrement à rassurer, car la veille du mariage, il avait encore constaté en elle une anxiété qui l'avait étonnée, gênée, un peu irritée aussi, comme une offense à Floriane et un reproche à lui-même. Il disait d'ailleurs toute la vérité en parlant de son bonheur. Mais la mère, en lisant ces lignes qui exaltaient Floriane, ne voyait pas disparaître son inquiétude, au contraire. Et les rides légères qui s'étaient dessinées en ces derniers mois sur son front se multipliaient maintenant. Sous le ciel d'Asie, Floriane et Bruno continuaient leur voyage. La souple intelligence de la jeune femme, sa compréhension très vive, son goût affiné ravissaient Bruno. Il ne se lassait pas de lui redire qu'elle était l'idéale compagne d'un artiste et d'un poète. Floriane répliquait de son air tranquillement passionné « Et toi, tu es le mari que je rêvais, tu es le seul que je puisse aimer. Maintenant, la vie sans toi me serait impossible. » Cette dernière phrase amenait une molle protestation de la part de Bruno. Il disait « Florie, ne parle pas ainsi, ce n'est pas chrétien. » Un baiser lui coupait la parole, et Floriane riait en changeant le sujet de l'entretien. Mais l'orgueil de Bruno et son amour recevaient un stimulant nouveau de tous les faits, de toutes les paroles de ce genre, venant lui prouver à quel point il était aimé. Elle l'accompagnait complaisamment à l'église, même lorsque, par discrétion, il ne le lui demandait pas. Mais elle n'amenait jamais, maintenant, les entretiens sur le terrain religieux. Bruno ne s'en apercevait pas. Aussitôt qu'une occasion se présentait, il disait quelques mots sur ce sujet, peu de choses, car il voulait procéder doucement dans cette œuvre de conversion et ne pas risquer de la compromettre par un zèle intempestif. Floriane l'écoutait sans impatience, murmurait tendrement « Comme tu parles bien, Bruno !» Et c'était tout. Mais il ne s'inquiétait pas. Une âme élevée dans l'indifférence ne revient pas si facilement à la foi. Bruno aimait mieux voir chez sa femme cette attitude correcte et froide à l'égard de sa religion, plutôt que d'avoir à penser qu'elle pût feindre, pour lui complaire, une croyance qui n'existait pas encore chez elle. Néanmoins, il éprouvait toujours une sensation de gêne, presque de souffrance, lorsque les circonstances l'amenaient à toucher du doigt cette divergence d'idées entre elle et lui. Ainsi, quand il assistait à la messe, il lui semblait pénible de voir Floriane qui ne priait pas, qui était là, indifférente et très lointaine, cachant peut-être son ennui sous cet air de calme songerie où Bruno essayait de découvrir la tension émue, captivée, pour les saints mystères célébrés devant elle. Ou bien, parfois, lorsqu'il émettait sur telle fête du jour, sur un événement quelconque, une opinion franchement chrétienne, et qu'elle lui disait avec un air doucement étonné « Oh, mon ami, que tu exagères !» Il éprouvait un choc intérieur un peu douloureux. Impression fugitive, d'ailleurs, que Floriane se chargeait de faire oublier. « La grâce agira sur elle, songeait-il. Les conversions ne sont pas l'œuvre d'un jour. » Peu à peu, je changerai ses idées, je connaîtrai mieux son âme et je pourrai lui parler plus directement. » Il se rassurait ainsi lorsqu'une inquiétude venait l'effleurer au milieu de sa joie. Floriane, du reste, ne lui laissait guère la liberté de réfléchir. « Je ne veux pas que jamais vous me quittiez, même en pensée », lui avait-elle dit le jour de leur mariage. Bruno n'avait plus que de rares moments de solitude, pendant lesquels l'image de Floriane était là encore, gênant ses essais de recueillement. « À qui as-tu rêvé ?» demandait la jeune femme en le revoyant. « Est-ce à moi ?» Il pouvait répondre sans mentir « Oui, c'est à toi. » Et le regard ravi qui le remerciait chassait le remords de son âme, un instant effrayé de se trouver si distraite devant Dieu. Un jour, vers la fin du voyage, Bruno demanda « Veux-tu que nous allions à Jérusalem, Floriane ?» Ils étaient assis dans un petit cimetière musulman qui dominait la mer. Les tombes, blanches ou grises, presque toutes modestes, s'allongeaient dans l'herbe, sous les cyprès, dont l'ombre noire se balançait dans la lumière du jour finissant. Des roses tardives parfumaient l'air léger. Entre les arbres, le golfe resplendissait d'une ardente clarté bleue. Florian, les yeux perdus en quelques songes merveilleux, s'appuyait à l'épaule de Bruno. À sa question, elle répondit « Non, restons ici, plutôt. J'aurais aimé te conduire au berceau de notre religion, car elle est la tienne aussi, Florie. Pas encore. Un peu déjà, pourtant. Dis, ma Florie, tu l'admires, tu sens son attrait ?» Il interrogeait avec des yeux inquiets qui cherchaient à comprendre le mystère de cette physionomie de femme. Elle sourit en répondant « Je te le dirai plus tard, ne m'interroge pas encore sur ce sujet. » Il baisa la joue blanche toute proche de ses lèvres en murmurant « Oui, plus tard, je serai bien heureux, Floriane. Ne l'es-tu pas déjà ? Tu veux te faire répéter que tu es mon bonheur, la joie de mes yeux et de mon cœur ?» Leurs regards se perdirent l'un dans l'autre en une contemplation passionnée. Autour d'eux, la solitude était complète. La lumière d'Orient, légère et dorée, les enveloppait. Un rosier, grimpant autour d'une stèle, effeuillait ses fleurs rouges sur la robe de Floriane. Un peu de brise frôlait le cyprès, courbait légèrement l'herbe haute et soulevait l'écharpe de gaze blanche enroulée autour des épaules de la jeune femme. Que tout est beau ici, dit Floriane, je m'y attarderai volontiers. Mais il est raisonnable de terminer notre voyage dans quelques jours. Nous irons plus tard à Jérusalem. Elle regarda un instant devant elle, dans la profondeur ensoleillée du golfe, et sourit de nouveau en répétant « Mais oui, plus tard nous irons, mon chéri, quand tu me le demanderas. » Lorsque, au début des fiançailles, il avait été question de la future résidence du jeune ménage, Floriane déclara que la carrière littéraire de Bruno exigeait qu'il habite à Paris. L'avis contraire de Madame Ferrière ne parvint pas à vaincre l'influence de la fiancée. Bruno, si amoureux de son Anjou, l'était encore plus de Floriane. Confiant en son intelligence, il se laissait persuader qu'à Paris seulement, il trouverait les moyens de perfectionner son talent et d'arriver à la célébrité grâce aux relations qu'il pourrait former. Il se réservait seulement de passer plusieurs mois à Sarger, et Floriane n'avait pas dit non. Aussitôt de retour à Paris, tous deux cherchèrent un appartement. Celui sur lequel Floriane jeta son dévolu était neuf et charmant, mais trop petit au gré de Bruno. « Nous n'aurons pas de chambre à donner en dehors d'un grand cabinet, » fit-il observer. « Où mettrons-nous nos parents quand ils viendront ?»« En effet, ce sera un peu juste, mais le prix est avantageux et nous avons besoin de compter pour commencer. Dans quelque temps, j'espère que tu seras lancé, nous changerons alors. »« Mais je t'assure, Florie, que notre budget nous permettrait... » Elle l'interrompit en riant. « Tu ne connais rien à un budget de ménage. Laisse-moi te dire cela, ami chéri. Moi, je sais ce qu'il en est, puisque je dirigeais la maison chez mes parents, et je t'assure qu'il nous faut aller doucement pour débuter. À côté, il y a une excellente pension de famille. Quand tes parents viendront, nous leur retiendrons une chambre là, et ils prendront les repas avec nous. Ce n'est plus la même chose. J'aurais voulu les avoir tout à fait ici. » Et je sais bien que ma mère n'aimerait pas cette combinaison. Eh bien, prenons un appartement plus grand, si tu veux, mon Bruno. Mais je trouve que ce n'est pas très raisonnable. » Comme toujours, la raison et Floriane l'emportèrent. On loua le petit appartement que la jeune femme meubla de façon charmante, sans dépenses exagérées, avec ce goût et cette entente pratique qui s'unissaient chez elle si remarquablement. Les mêmes qualités se manifestèrent dans la direction de son intérieur, dans ses toilettes, dans l'organisation de son existence. Une petite part de celle-ci seulement fut réservée au monde. Tout le reste appartenait à son mari. Le cabinet de Bruno avait été la pièce la plus soignée, la plus amoureusement décorée. Elle y était sans cesse près de lui, prenant des notes pour son travail, recopiant les feuilles volantes sur lesquelles il écrivait. Bruno terminait ses croquis d'Anjou. En même temps, il bâtissait le plan d'un nouvel ouvrage. Il se sentait singulièrement en verve dans cette grande pièce aux boiseries claires, aux meubles élégants, d'une forme neuve et jolie. Des parfums y flottaient toujours, parfums de fleurs, que dominait souvent la senteur pénétrante dont s'imprégnait toute la personne de Floriane. Mais la présence continuelle de la jeune femme, surtout, était le stimulant incomparable. Elle se montrait vraiment pour Bruno une collaboratrice, très discrète toujours, mais d'un esprit juste et fin. Puis aussi, quelle douceur enivrante de la voir là, sans cesse, si tendrement éprise, si charmeuse, frôlant les meubles des plis légers de ses robes claires, rangeant autour d'elle avec des gestes délicats, ou se penchant vers son mari, dans une attitude d'abandon qui courbait sa taille, souple comme un rameau flexible. Bruno disait « Maintenant, je me demande comment je pouvais travailler quand je ne t'avais pas. » Elle répondait « Et moi, je me demande comment je pouvais vivre quand je ne te connaissais pas. » Dans ses lettres aux siens, Bruno continuait d'exalter sa femme. Les termes lui manquaient pour exprimer son bonheur. Floriane ne lui donnait aucune des désillusions prédites. La question religieuse elle-même le laissait sans inquiétude. Chaque dimanche, la jeune femme l'accompagnait à la messe et les prescriptions de l'Église étaient observées à leur table sans observation de sa part. Son âme était certainement bien disposée, elle écoutait toujours avec plaisir son mari parler de sa religion et bientôt, il espérait, le don de la foi lui serait accordé. Vers le milieu de janvier, M. Ferrière et sa femme vinrent à Paris. Ils ne descendirent pas à la pension de famille, mais chez une cousine de Mme Ferrière qui demeurait dans un quartier tout opposé à celui du jeune ménage. Chaque jour, ils venaient déjeuner chez Bruno. Floriane se montrait aimable et tranquillement prévenante. M. Ferrière la déclarait parfaite. Mme Ferrière constatait, avec un effroi secret, son empire sur Bruno. Celui-ci n'avait plus d'autre volonté que celle de sa femme. Dans les rares moments où elle put se trouver seule avec lui, Mme Ferrière reconnut qu'elle n'exerçait plus d'influence sur le cœur de son fils et que les souvenirs de son existence à Sargé s'effaçaient tous devant Floriane. Il s'informa cependant de ses jeunes protégés avec quelque intérêt. Sa mère lui demanda « Tu vas sans doute t'affilier ici aux œuvres de ta paroisse ?»« Certainement, mais pas tout de suite. » Floriane, qui était présente, ajouta « Non, pas encore. Un jeune mari doit être tout à sa femme la première année de leur union. »« Oui, c'est très naturel. Mais plus tard ?»« Oh, plus tard, évidemment. Bruno fera comme il entendra. » Tout cela était très raisonnable, tout à fait naturel, comme le reconnaissait elle-même Mme Ferrière. Elle le paraissait également, cette réponse de Bruno à sa mère, qui s'étonnait de lui voir abandonner certaines de ses habitudes pieuses. J'ai vu que cela contrariait Floriane, bien qu'elle eût la délicatesse de ne jamais me le dire. Je crois donc plus habile de mettre de la discrétion dans mes pratiques religieuses, tant qu'elle-même ne partagera pas toute ma foi. Madame Ferrière retint cette réplique qui lui venait aux lèvres. « Si tu avais épousé une croyante, tu n'aurais pas à prendre ces ménagements si dangereux pour toi. » Elle dit seulement « Avant son âme, il faut penser à la tienne, mon enfant. C'est ton premier devoir. Ne supprime rien de ce que tu sens lui être nécessaire. Tu as besoin d'une vie chrétienne intense, plus encore que bien d'autres. » Il avoua « C'est vrai. Je vais reprendre peu à peu mes habitudes. » Mais la promesse ne fit pas évanouir l'ombre d'angoisse qui couvrait le regard de Mme Ferrière. Il semblait que, par avance, la mère vit ce qu'il adviendrait des résolutions de Bruno devant la douce désapprobation de Floriane, sa crainte qu'il se fatiguât, ses tendres exigences qu'il retenait sous des prétextes divers. « N'exagère pas, mon ami, » disait-elle. Ce mot tranchait net les hésitations de Bruno. Exagéré, mais ce serait déplorable pour le but même qu'il poursuivait, la conversion de sa femme. Il fallait procéder doucement, l'initier peu à peu, faire des concessions sur les points qui n'étaient pas l'indispensable absolu. Les habitudes ferventes, après un timide essai de retour, disparurent définitivement. Bruno, de plus en plus absorbé par Floriane, n'en éprouva qu'un regret vague sur lequel il n'arrêta pas sa pensée.